Alors, la bibliothèque in situ poursuit à rencontrer les diverses personnes impliquées dans cette résidence en Grenage. Et donc, après avoir rencontré Christelle, Anne et Mélanie, c'est au tour de Manon Picard que nous rencontrons maintenant. Bonjour.
Bonjour.
Alors, peut-être te présenter en quelques mots. Donc, tu es doctorante, chercheuse en littérature.
Je te laisse. Étudiante, voilà. À l'Université de technologie de Compiègne. Et je travaille sur la littérature numérique à l'ère de la mobilité. Et plus spécifiquement sur la notification comme incubateur de récits. Donc, à partir de là, il y a le néologisme que j'ai créé qui est notification, puisque je fais la contraction de notification et fiction. Voilà.
Alors, immédiatement, après cette présentation, j'avais envie de te demander si, au cours de tes études, cet aspect-là est venu, comment c'est arrivé dans tes préoccupations. Est-ce que tu avais déjà entrepris une recherche, par exemple, au stade du master, sur ce sujet-là, ou pas du tout ?
Alors, pas du tout. Mon parcours est nourri tout à fait de rencontres. En fait, j'ai fait une licence lettres et culture contemporaine à l'université de Poitiers. À partir de la deuxième année, je me suis spécialisée dans le métier du livre. Et si, dans un premier temps, j'ai d'abord regardé ce qu'était livre d'artiste, etc., j'ai très vite basculé en fait, dans le milieu du numérique. Alors, quand j'ai rencontré Anaïs Guillet, qui est maître de conférence à l'université de Compiègne, qui a un blog littéraire d'ailleurs, le Cyborg littéraire, il me semble. Il me semble que c'est cette adresse. Et à partir de là, donc, on a pu échanger pas mal sur la littérature numérique, puisqu'à partir du moment où on est sur la littérature numérique, le paradigme à la création est juste infini, et c'est ça qui m'a tout à fait séduite. Et donc j'ai poursuivi ensuite mes études par un master 2 pro et recherche, toujours à Poitiers, master livre et médiation. Et dans ce cadre-là, j'ai pu faire un stage à Montréal, au laboratoire de recherche NT2.
Alors justement, ça faisait partie aussi de mes questions, puisque cette évocation du stage, nous avions déjà eu l'occasion d'en parler hors micro. Et donc sur le site de cette institution, il est indiqué de manière très claire l'intitulé de ce laboratoire, donc, qui est un laboratoire de recherche sur les œuvres hypermédiatiques et qui se définit aussi comme une chaire de recherche sur les arts et littérature numérique, donc au Canada. Donc pour l'avoir fréquenté de l'intérieur, puisque tu y as passé un certain temps, qu'est-ce qui fait l'originalité de cette institution qui a un site internet pour y avoir fait un rapide tour tout à l'heure, extrêmement fourni et extrêmement riche aussi en archives.
Oui, parce qu'à l'heure actuelle, c'est plus de 4000 œuvres qui sont recensées, donc 4000 fiches analytiques. Où il y a une équipe d'assistants de recherche en fait, qui travaille tous les jours là-dessus. Et la spécificité, c'est que quand on est sur des œuvres hypermédiatiques, donc des œuvres numériques de ce genre, c'est que ce sont des œuvres en fait, qui sont lancées un peu comme une bouteille à la mer par les artistes au sein de la toile du web. Et s'il n'y a personne en fait, pour les récupérer, les archiver et les mettre en stock dans une plateforme web telle qu'elle soit. Là, en l'occurrence, le NT2, c'est un site web type universitaire, enfin, qui laisse une vitrine à ce regard scientifique-là. Eh bien, peu de personnes pourraient le découvrir. Donc, c'est un gros travail, non seulement un travail analytique qui est fourni, mais en plus, un gros travail d'archives qui est fait derrière. Donc, c'est en ça que c'est passionnant.
Alors, venons-en maintenant donc, à cette résidence dans laquelle vous êtes engagé déjà depuis un moment, mais il y a une étape de travail nouvelle, déjà géographiquement parlant, puisque c'est vrai que d'habitude, vous œuvrez plutôt dans cette nouvelle région Grande-Aquitaine. Mais donc là, une collaboration avec notre institution et plus généralement donc, avec le département du territoire de Belfort et la médiathèque départementale pour... tu me disais, éprouver par rapport à vos réflexions sur ce projet Engrenage, l'outil d'écriture collaborative, peut-être pourrait-on dire. Donc peut-être donner un peu un ressenti sur comment s'est passée cette semaine de travail, et surtout la nouveauté, je crois bien, si j'ai bien compris, c'était la présence d'un auteur qui était complètement, on va dire, neuf dans le projet, puisque dans la démarche antérieure du collectif Hors Normes, il y avait plutôt le travail d'adapter des œuvres littéraires existantes, alors que là, ce n'était pas du tout le cas. C'était une œuvre qui s'est faite, en, peut-être pourrait-on dire, au jour le jour, quoi.
Exactement. Donc, peut-être rappeler ce que le projet Engrenage. Le projet Engrenage est un projet de recherche et développement qui a pour vocation le développement d'un outil d'éditorialisation pour les auteurs. Donc un véritable nouveau crayon pour eux, pour écrire des œuvres littéraires diffusées ensuite sur les réseaux sociaux. Donc comme c'est sur plusieurs plateformes, et bien cette œuvre, cette écriture pardon, numérique est tout à fait tentaculaire et multimédia, puisque nous avons du son, du texte, de l'image fixe et de l'image animée. Donc c'est assez nouveau aussi pour les auteurs de s'essayer à ce genre d'écriture, surtout quand ce sont des auteurs qui viennent du livre. Et pour faire aussi un petit peu la jeunesse, c'est un projet de recherche qui a lieu sur 3 ans. Donc on était jusque-là en phase expérimentale. On a adapté des œuvres littéraires sur les réseaux sociaux, mais dans notre démarche, on lisait d'abord l'œuvre papier, et ensuite, très vite, on voyait quel support on pouvait convoquer ensuite pour pouvoir diffuser ces œuvres-là. Là, c'est tout nouveau pour nous parce qu'on travaille en direct, comme tu le disais, avec un auteur. Donc cette spatialisation de l'œuvre, ce système de ramification, on doit le faire au jour le jour avec l'auteur puisqu'on n'a pas de visibilité globale sur l'œuvre puisqu'elle n'existe pas, elle est en construction. Donc ça, c'est toute autre gymnastique de l'esprit et même au niveau création, et c'est très passionnant et stimulant en fait au quotidien. Qu'est-ce que demain sera fait, on ne sait pas. Ce que demain sera fait, pardon, on ne sait pas. Donc voilà, je suis ravie de cette rencontre, de ce travail en équipe.
Alors, merci. Donc, la dernière question sera plus voilà, une ouverture, puisque c'est vrai que lors de ces petits entretiens, il y a à la fois la description du projet, mais aussi, tout comme l'évocation de ce laboratoire canadien qui est un lieu ressource, c'est justement de pouvoir créer aussi des ponts, faire des liens avec d'autres ressources qui existent, virtuelles ou physiques. Et le hasard a fait que peu de temps avant de rejoindre l'espace Gantner, peu de temps avant 14h, venait de débuter, puisque je suis arrivé à peine après 14h, une émission de radio qui a pour thème cette semaine, donc c'est les nouvelles vagues sur France Culture. Et cette semaine, donc peut-être que je pense que tu n'as pas eu le temps d'écouter puisque c'était la résidence en priorité, mais le hasard a fait qu'il y a eu 5 émissions, donc c'est tous les jours du lundi au vendredi, sur la notion de lire, qu'est-ce que c'est que lire, et notamment le 17, donc il y a quelques jours, le volet 3 de cette série était consacré, le titre est le suivant, ces nouveaux logiciels qui lisent. Donc j'avoue que je n'ai pas écouté non plus, mais en feuilletant cette page qui décrit l'émission, il est fait mention d'un observatoire de la vie littéraire, et que je ne connaissais pas, donc je voulais juste te demander si tu connaissais cet institut, et qui, lui, s'attache justement à observer les liens entre littérature et numérique. Donc voilà, c'est simplement une découverte comme ça, on va dire, conjoncturelle, puisque, comme les sources sont multiples, il y a les livres, les revues, Internet, la radio. Voilà, simplement te demander si tu connaissais cet institut.
Alors, je ne connais pas cet institut, mais il m'a l'air d'être pas mal similaire à l'OIC, qui est l'Observatoire de l'imaginaire contemporain, qui est un des partenariats avec le laboratoire de recherche NT2, justement. Et je vois les visuels, et le lien entre numérique et littérature semble assez évident. C'est assez dommage qu'on soit à la radio, parce qu'il y aura des visuels.
Bien sûr, on mettra le lien directement sûrement vers l'émission. Je pense qu'elle doit être digne d'intérêt. Et l'idée, c'est de mettre bien entendu les liens aussi, puisque c'est un blog texte, image et son. Donc bien entendu, on ne peut pas mettre les liens dans le son, mais on pourra l'indiquer dans la partie textuelle. Et puis peut-être un ultime mot, justement, moi je ne suis pas du tout non plus spécialiste de cette question, même si ici c'est vrai qu'on est dans un centre dédié au numérique, on a une collection dont on t'a parlé, mais j'avais eu l'occasion de rencontrer une auteure contemporaine qui est assez curieuse et entreprenante dans le champ numérique, c'est Anne Savelli. Je pense que, je ne sais pas si tu l'avais connue ou tu l'as déjà rencontrée, mais donc là encore pour te demander si toi tu avais connaissance d'un autre projet qui serait pour le coup pas du tout lié à vos travaux dans le collectif Hors Normes, mais toi en tant que chercheuse, j'imagine que tu as eu l'occasion d'avoir pas mal de cadres d'école ou d'autres projets qui traitent de cette question de la littérature et du numérique. Et si tu pouvais éventuellement en dire un mot comme ça, bon, peut-être un peu le pourpoint, c'est difficile lorsqu'on pose la question, mais voilà où.
Déjà, j'ai pu, pendant ces 4 mois de stage au laboratoire de recherche NT2, vu qu'il y a plus de 4000 œuvres, pardon, qui sont recensés, je n'ai pas consulté les 4000 œuvres, mais j'ai pu en embrasser pas mal, on va dire, et moi-même j'ai pu analyser certaines œuvres, donc contribuer à petite échelle à ce recensement. Mais sinon, le directeur de thèse, qui est Serge Bouchardon, qui est professeur à l'Université de technologie de Compiègne, a travaillé avec la compagnie Alice, par exemple. Et ils ont développé l'application La Séparation. Où, ils ont le principe, en fait, est d'avoir développé une typographie qui coupe, qui scinde les mots en deux. Et donc, quand on rentre un mot, par exemple, dans notre barre de recherche, on appuie sur Entrée, et là, il y a toute une liste de mots qui est déclinée et qui reprennent, en fait, la typographie de base. Donc, c'est un gros jeu sur les mots, etc. Après, il y a des collectifs, évidemment, type Pin Pin Bar, l'artiste Abramovic, j'ai perdu son prénom, mais qui est une artiste qui fait beaucoup de performances physiques. Marina Abramovic, voilà, qui fait beaucoup de performances physiques et finalement a fait aussi d'ailleurs un partenariat avec Pin Pin Bar pour adapter l'une de ses performances physiques qui a été présenté au MoMA, la retranscrire virtuellement. Donc, ce qui est assez drôle, c'est que en tant qu'internaute, on a un avatar qui va lui-même au MoMA, et donc on nous demande d'acheter un ticket. Ensuite, on nous demande de faire d'aller dans la file d'attente et d'attendre, donc à notre tour, en fait, le moment de rencontrer Marina Abramovic. Sauf que c'est sur du temps réel. Donc si on doit attendre 3 heures dans la file d'attente pour voir Marina Abramovic, ne serait-ce que virtuellement, nous attendons 3 heures derrière notre écran. Et si nous voulons visiter cette œuvre, par exemple, mercredi après-midi, mais que le MoMA est fermé le mercredi après-midi, nous n'avons pas accès à l'œuvre. Donc finalement, tous les codes qui sont présents dans notre réalité sont réintroduits au sein de cet univers virtuel.
Très bien, ben merci bien à toi Manon d'avoir pris ce petit temps pour échanger et puis bonne fin de résidence parce que c'est pas tout à fait terminé encore.
Quelques heures encore de travail.
Merci beaucoup.
Merci.